Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1281, en ce samedi 31 mai. J'espère que tout le monde va bien. Tout le blues actuel avec un petit œil dans le rétro. Chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues sur Radio 666. Sweet Home Chicago. Dans ce 1281e numéro, 4 invités de Marc, Jacques Perrotte, Joe Caritos, Greg Bellery et Patrick Payard en première heure. Et puis, ça sera en deuxième heure, Manu Galvin pour la deuxième partie de son interview. En première heure, on va parler tous ensemble de l'un des plus grands groupes du monde qui a vendu 300 millions d'albums dans le monde entier. Led Zeppelin, la rencontre de Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham est abondamment racontée dans le film documentaire Becoming Led Zeppelin, dont je vous recommande grandement le visionnage. Ensemble, on évoque nos coups de cœur dans la discographie de Led Zeppelin, on parle des influences du blues hautement évidentes, au point que le groupe perdit un procès face aux ayants droit de Willie Dixon. On rappelle la version d'Otis Rush en 1956 de I Can't Quit You Baby, justement précisément écrite par Willie Dixon, qui figurait dans leur premier album en 1969 à Led Zeppelin. On débat avec des avis divers, vous verrez, de l'utilité des tribute bands. On souligne l'importance énorme que Led Zeppelin a eue avec les autres monuments que sont Black Sabbath et Deep Purple sur l'apparition et les devenirs du blues rock et du hard rock dans le monde. De 1968 à 1980, jusqu'à la tragique disparition de John Bonham, on retrace une carrière de 12 années fulgurante à travers de multiples titres phares. Mais on commence cette émission avec un nouvel extrait du disque du mois, Soul in Blue chez Delmark Records par le grand Tad Robinson. Vous êtes prêts? Sweet Home Chicago, c'est parti!
A dollar went from hand to hand back in the day, I'm told. But the rules of the game have broken down and there's nothing really taking hold. Always tell you keep on moving. There's nothing here to see. Everything, baby, is up in the air except for you and me. Day by day I keep pushing, but it's hard out here for the common man. Dad always said to me, give it the best that you can. I used to know my way around here, but now I'm drifting like a ship out at sea. Everything, baby's up in the air except for you and me. About the mess this world is in. Seems like all the crazies get their way in the end. Without you I just couldn't take it. I'd be down on my knees. Everything, baby's up in the air except for you and me.
Ça s'appelle Up in the Air, c'est signé Tad Robinson sur l'album Soul in Blue chez Delmark Records. Voici le numéro 8 de Blues Heritage avec Jacques Perrotte, Joe Caritos, Greg Bellery et Patrick Payard. Blues Heritage.
Marc Loison.
Jacques Perrotte. Chaque dernier samedi du mois dans Sweet Home Chicago.
Sur Radio 666.
Et sur Blues Actu Radio.
Oh yeah.
Blues Héritage aujourd'hui. Jacques Perrotte, ça va Jacques ?
Bien, Marc Loison, bon. Sur 666.
Comment vas-tu depuis la dernière fois, Jacques ?
Parfaitement bien, et puis là on va parler d'un groupe énorme, Led Zeppelin.
Énorme,
vraiment,
énorme.
Tu l'as dit déjà, Led Zeppelin, qu'on allait en parler.
Led Zeppelin, mais je pense que les gens sont au courant, on a fait le teasing, le buzz qu'il fallait. Led Zeppelin, un groupe qui a fait l'objet d'un superbe documentaire qui est passé au cinéma et qui est seulement passé, il s'est même pas arrêté.
Il n'y a que toi qui l'as vu.
Et ben exactement, on était tous seuls dans la salle, ou presque.
Et alors, tu as adoré ?
Extraordinaire. Mais il ne s'agit pas de ça tout de suite. On va dire bonjour à nos autres invités. Au téléphone, on a Patrick Paillard. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Bonjour Patrick.
Ouais, bonjour.
Comment vas-tu, Patrick ?
Eh bien, Patrick va bien.
Oui, malgré la météo maussade.
Malgré la météo maussade. Voilà, il est à sa fenêtre. Il regarde les bus passer, les gens courbés sous les bourrasques. Que veux-tu ?
Alors, la dernière fois, tu es intervenu dans Blues Héritage. T'en souviens-t-il ? C'était pour qui ? Pourquoi ?
Il me semble que c'était une histoire de pierre qui roulait.
Oui, c'est vrai, qui ne mâche pas mousse.
Les Rolling Stones.
Ça, là, par contre, l'adage, c'est un peu planté pour le fait de ne pas mâcher mousse.
Bon. On a un autre invité dans le studio, c'est monsieur Greg Bellery. Greg, bravo. S'il vous plaît, sous vos applaudissements.
Bravo. Bonjour, Marc Loison. Bonjour, Jacques Perrotte.
Alors, Greg, qui n'est pas un inconnu, qui est un grand personnage célèbre de la radio, pour une émission qui a lieu tous les mardis soirs. C'est quoi cette histoire fumeuse de hard rock ? Tu écoutes du hard rock, toi ?
Ouais, j'essaye d'écouter. Et je me dis quand même qu'il y a une corrélation avec le groupe qu'on va parler ce soir.
Bah quand même.
Ce soir ou aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure.
Et puis ça a été quand même le grand ordinateur des rockalises.
Oui.
À Saint-Martin-de-Fontaine.
Qui peut-être. Petit doigt me dit qu'il va revenir.
Ça reste un scoop.
On rappelle quand même ce que c'était les rockalises.
Les rockalises, oui, c'est un festival de hard rock qui se tenait tous les ans, période Toussaint. On a reçu notamment Survivor, on a eu Pretty Maids, on a eu Chakra, on parlait tout à l'heure des groupes suisses. On a eu reçu facilement une bonne trentaine, quarantaine de groupes internationaux et des groupes français aussi. Donc c'était vraiment le fer de lance du hard rock qui nous tenait à cœur.
Et voilà. Donc ça revient peut-être.
Oui.
Alors j'ai tout de suite une question pour toi, Greg. Pourquoi est-ce que le groupe Led Zeppelin est un des groupes préférés des hard rockers ?
Comme ça, je pourrais pas te répondre directement. Je dirais que c'est les premiers, les pierres angulaires de ce qui a fait la transition entre le blues et le rock. Comme Deep Purple, je dirais que c'est ces deux groupes-là qui ont été le fer de lance de l'orientation. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de mon morceau préféré. Il s'appelle Rock and Roll, ce qui veut bien dire quand même. Donc je pense que ça vient surtout de ça, et Jimmy Page avec sa gratte, voilà, on commençait à avoir des consonances un peu plus métal. Voilà.
Alors j'ai la même question pour toi, Jacques. Pourquoi, d'après toi, Led Zeppelin est-il apprécié des fans de hard rock et de métal aussi hein ?
Parce qu'ils ont créé un son, surtout Jimmy Page, il a créé un son spécifique de guitare un peu saturée qui n'existait pas forcément à l'époque, à part les Beatles qui avaient fait Helter Shelter, qui est aussi un des morceaux revendiqués par tous ceux qui aiment cette musique-là. Mais je dirais que Jimmy Page a vraiment enfoncé des portes qui étaient fermées.
Ouais.
Et donc, il a ouvert la possibilité à tous ces groupes de se lâcher et de faire ce qu'ils avaient j'avais envie de faire. Donc oui, c'est un précurseur et clairement Led Zeppelin a ouvert des portes.
Patrick, j'ai la même question pour toi, figure-toi.
Eh ben oui, ben voilà. Ben alors, je pense que sans vouloir parodier les autres, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que c'était, ils ont découvert quand même des choses absolument importantes, tel le chanteur qui se lâche absolument, tel un batteur qui reste dans les annales et qui le restera longtemps, et puis avec les stridents de Jimmy Page. Donc il y a eu toute cette espèce d'agglomérat qui a réussi, sans être du hard rock, à collectionner tout ce que les hard rockers vont reprendre après.
Ben voilà, ça me paraît une réponse tout à fait satisfaisante. Hein, on est bien d'accord. Une synthèse, c'est ça le mot en fait.
Oui, c'est, bah, il fait une bonne synthèse de ce qu'est Led Zeppelin pour les hard rockers.
Et puis Led Zeppelin est une synthèse effectivement entre tous ces courants musicaux. Ouais. Voilà pourquoi ça plaît, et voilà aussi pourquoi ça plaît aux amateurs de blues, parce que du blues chez Led Zeppelin, on va s'en apercevoir, il y en a. Et surtout quand j'ai demandé par exemple à Patrick quel est ton morceau préféré, tu as choisi I Can't Quit You Baby, c'est ça?
Oui, c'est ça. You, babe. So I'm gonna put you down for a while. I said I can't quit you, babe. I guess I got to put you down for a while. Since you messed up my happy home, made me mistreat my only child.
Ce morceau-là, parce que, bon, d'abord, on t'a pas demandé de réfléchir avant, c'est vrai que c'est venu tout de suite, mais alors justement, maintenant qu'on est, on est un petit peu posé, ce titre-là n'est pas d'eux, hein, bien évidemment, c'est un titre de Otis Rush qui a été, donc popularisé par Otis Rush et composé par Willie Dixon. Pourquoi ce morceau, Patrick?
Ah bah pourquoi ce morceau? Parce que tu connais bien mon attachement particulier au blues, et que là, on y retrouve absolument, déjà, premièrement, une sorte d'hommage aussi, et puis toute cette inspiration, toute cette veine blues qui en définitive a traversé la très courte carrière, la carrière de Led Zeppelin, c'est pas long, tout le blues va traverser la carrière de Led Zeppelin jusqu'à leur dernier album. Hein.
Ouais, je dirais, Patrick, ouais, aussi que les deux premiers albums étaient complètement construits sur la gamme blues, 12 mesures, hein, c'est
sur
ça qui est...
Sur des reprises, hein. Pour beaucoup.
Alors avec également, tu parles du premier album, il y a un morceau qui est complètement ébouriffant, qui est plutôt qualifié de rock'n'roll, mais le rock'n'roll c'est du blues, on est bien d'accord, c'est Communication Breakdown.
Yeah.
Ça, très c'était bon, un titre fondateur. Hein. On peut en parler aussi, même s'il ne figure pas dans votre liste des morceaux préférés.
Oui, mais tu nous as demandé à chacun, ça fait 4 morceaux sur une centaine.
Oui, bah, on pouvait faire 3 heures aussi.
Hein, voilà. C'est ça. Et donc, Led Zeppelin, alors Led Zeppelin en 2025, ça c'est aussi une question que j'avais pour vous trois, parce que l'idée c'est aussi de parler des groupes qui n'existent plus, mais pour faire perdurer un petit peu aussi leur mémoire, il existe des tributes Led Zeppelin.
Bien sûr.
Qu'en penses-tu, Greg, toi, à titre personnel ?
Qu'est-ce que j'en pense des tributes ? Je trouve ça toujours très bien, malgré tout. On n'a pas tous la possibilité, déjà, premièrement financière, de pouvoir voir les vrais artistes. Alors là, pour le coup, on parle d'un groupe qui n'existe plus. Mais en soi, il y a déjà ça, la possibilité d'aller loin, parce que Led Zeppelin, s'il devait passer, je pense pas qu'il passerait à Caen. Donc les tributes, je trouve que ça permet de perdurer, de faire continuer à vivre ces groupes pour lesquels on a une nostalgie. Et sincèrement, il y a des très très bons tributes.
Oui, d'ailleurs, Peter Gabriel ou Steve Hackett participent eux aussi à des groupes qui reprennent du Genesis. Donc Peter Gabriel a emmené son enfant pour dire « Regarde ce que papa faisait dans les années 70 avec un groupe de reprises ». Donc c'est quand même assez incroyable, parce que les gens sont tellement précis dans leur reprise qu'ils se disent « Ben non, mais je fais pas mieux ».
Dans la même veine, Paul McCartney a adoubé un groupe de reprises des Beatles.
Caverne, je crois. Ouais. Enfin,
il y a aussi cette espèce d'adoubement quand les artistes sont encore là. C'est possible aussi.
Mais au-delà des tributes, avant même les tributes, c'est qu'il y a des très grands groupes qui reprennent déjà. On a eu Great White qui a repris Led Zeppelin, qui a fait un album entier sur Led Zeppelin. Donc on va même au-delà d'un groupe tribute. C'est qu'il y a vraiment des grands groupes majeurs qui continuent à prendre et reprendre ces artistes-là.
Je voulais demander à Jo, justement, qui est dans le studio.
Ah, salut Jo.
Et qui est musicien, rapproche-toi du micro. Ouais. Est-ce que c'est dur, c'est particulièrement difficile de reprendre Led Zeppelin?
Ah oui.
On parle
pourquoi
bien de
surtout, je sais pas. C'est pas un groupe à cover, quoi. Enfin, il y en a qui arrivent, comme bien dit.
Ouais. Mais techniquement, c'est difficile.
Ah oui.
Il y a un feeling.
Ah, ouais.
Je t'entendais faire Stairway to Heaven tout à l'heure, ça c'est le morceau.
Ouais, ça c'est. Ouais.
Un petit peu qu'on peut pas massacrer, parce qu'il faut faire exactement, sinon.
Bah oui.
S'il y a une note qui change, tout le monde le connaît par cœur.
C'est difficile de reprendre du Jimmy Page.
Enfin, Jimmy Page, pour toi, c'est un artiste, c'est un guitariste à mettre en haut de la pyramide, c'est ça?
Ah ouais, mais il a raison, Jacques. C'est le hard rock. Le hard rock, et toi aussi, tu l'as dit, c'est venu de là, c'est la porte.
Hein. Ah bah, Jimmy Page, Richie Blackmore pour un autre groupe, mais voilà, c'est les mecs qui avaient le feeling, au-delà de la technique. Je suis pas guitariste, mais au moins on ressent un feeling des deux, on sent directement, et je peux comprendre que ça soit compliqué, parce qu'il y a vraiment cette atmosphère qui est toujours dégagée par ces grands artistes.
Patrick, j'ai la même question pour toi au téléphone, Patrick, par rapport aux tribute bands, tu as peut-être une idée, Anna.
Alors, oui, moi j'ai la chance d'être parisien, donc de pouvoir voir des groupes un peu plus souvent, mais en ce qui me concerne, je préfère vraiment un groupe qui fait des covers, un groupe qui reprend méthodiquement, note à note, tout ce qu'on a pu voir. Éthiquement, la musique, pour moi, c'est quelque chose de créatif, mais c'est pas quelque chose qui tient de la copie. Donc,
le débat est ouvert, messieurs. Hein.
Ah, le débat. Non, mais je l'entends bien et je le comprends bien.
Alors après, Patrick, voilà.
Mais si on veut faire continuer à découvrir la musique,
c'est pas de la copie, c'est de l'hommage.
C'est ça.
Non,
c'est,
Est-ce qu'une cover est un hommage aussi? Oui.
Bah, ça dépend.
Et,
si
et pourtant, une cover, on y met aussi du sien.
Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a effectivement plus d'âme quand tu fais une reprise, parlons français, une reprise que forcément, alors tribute, c'est pareil, on va trouver un autre mot.
Ouais.
Mais en même temps, pour ceux, ce que disait Greg, qui n'ont jamais vu le groupe, ça permet quand même, au-delà des images vidéo parfois de qualité moyenne, de retrouver quand même le son, tu vois, c'est de se dire, bah voilà, c'était un peu ça l'émotion que ton père ou ton grand-père ont ressenti.
Ouais, bon, bah moi je me dis que, voilà, ça, je suis assez partial là-dessus. Je me dis que j'ai jamais pu voir les Beatles, je ne verrai jamais les Beatles, je suis né trop tard, tant pis pour moi, j'avais qu'à naître plus tôt. Et je n'irai jamais voir de cover des Beatles, il y a les Rare Beats qui sont très bien, que j'ai vu en vidéo.
Ah, donc ils les ont
vus? Non, que j'ai vu. Non, je les ai pas vus, ils passent bientôt sur Paris.
Ouais.
Ils passent bientôt sur Paris. Alors, bien évidemment, j'aurais envie d'y aller. Ouais, j'aimerais bien entendre un petit peu de Beatles jouer par des... Mais non.
Ah oui, tu te retiens. C'est-à-dire que tu vas bouder ton plaisir, en fait, c'est ça, Patrick?
Non, je préfère garder mes sous pour des créatifs.
Ouais, ça s'entend.
Ça s'entend aussi. On va écouter un... Tiens, je vais vous faire écouter un truc. Ça, c'est le morceau préféré de Greg. Morceau préféré de Led Zepp.
Ah. Bah oui. On l'était deux, hein.
Ah oui,
et de jour.
Moi aussi.
Toi aussi, t'aimes bien.
Ah oui.
Alors, le premier qui devine qui c'est, évidemment, il a gagné un yo-yo en bois avec la ficelle du même métal.
C'est une fille qui chante, déjà.
On est d'accord, c'est une fille qui chante.
Ouais.
Donc, on a éliminé la moitié de la population, déjà.
Peut-être Mireille Mathieu, parce que ça lui irait bien.
Alors, presque.
C'est une Française?
Non.
Non.
Américaine.
Avec un accent pareil.
Américaine.
Alors le groupe s'appelle Iron Cross et c'est vrai que c'est,
ah ouais, là, pour le coup,
c'est pas à s'y méprendre.
Ouais.
On est ouais. d'accord que c'est pas du cover band, c'est pas à s'y méprendre. On sait que c'est pas Led Zeppelin, mais ça le fait quand même quoi, Greg.
Ah bah, ça fait le taf. Moi je, alors
ils sont jeunes.
On va pas relancer le débat avec Patrick et je l'entends très bien ce qu'il veut dire. J'ai des enfants derrière, Patrick probablement aussi peut-être, mais me dis que ces groupes permettent de faire continuer à nos enfants de dire voilà aussi ce qu'était Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones. Des fois on a tendance à leur dire ouais, qu'est-ce que t'écoutes encore comme bon, l'avantage là, c'est qu'on peut leur faire découvrir notre musique différemment. Même maintenant, je suis entièrement d'accord avec Patrick, que je préfère écouter les originaux. Mais la possibilité.
Patrick t'a dit qu'il voulait pas y aller.
Oui, je sais.
Arrête d'essayer de convaincre. C'est pénible au bout d'un moment.
Il a dit qu'il voulait pas y aller.
Non, mais il a regardé des vidéos quand même.
Moi, je suis d'accord avec Patrick aussi. J'aime pas trop les tributes. Mais bon, dès qu'il y a un gars qui sort un cover avec des bons arrangements, ça me va. Mais tout un truc avec des reprises exactes, ça m'intéresse pas.
Voilà. Voilà, alors moi j'ai autre chose à vous faire écouter, c'est un autre document.
Ah. I got my first drum kit when I was 10. I was listening to rock and roll coming from America.
That's a sound I would really like to make.
Ça donne envie.
Ça c'est le film.
Ça c'est le film, c'est le teaser du film.
C'est un film ou un documentaire pour toi?
Pour moi c'est les deux.
Un document.
Un document, bah oui, bravo Patrick.
Voilà, ça c'est le teaser.
C'est pas un film.
Alors, toi, tu l'as vu, Patrick ?
Ah, que oui.
Alors, dis-nous tout, parce que ici autour de la table, on est un à l'avoir vu, c'est moi. Et en fait, on voulait avoir ton avis également, parce que Becoming Led Zeppelin, soyons précis, c'est un documentaire ou c'est un film de cinéma ? Patrick Paillard.
Alors, c'est un documentaire qui raconte juste la création de Led Zeppelin et qui s'arrête. À l'enregistrement du numéro 2.
Qui s'arrête en 1970.
Voilà, on se consacre à l'histoire des quatre, donc à cette rencontre assez improbable quand même, comme j'ai tout entre deux super musiciens de studio qui étaient Page et qui étaient Jones, et puis avec deux petits musiciens un peu bouseux là du côté de Birmingham. Et cette rencontre, eh ben, ça va donner Led Zeppelin. Et c'est cette alchimie qu'il va y avoir entre eux, cette alchimie musicale, hein, parce que amicale, ça sera pas franchement le cas, hein. Mais cette alchimie musicale, eh ben, elle est vraiment visible sous nos yeux. On voit tout ça se créer, et on a en plus le feedback de chacun des artistes, ce qu'il était avant, ce qu'il écoutait, sa vie, quoi.
Comment est-ce qu'on explique, Patrick, que ce film, alors sur Paris, je sais pas s'il y a eu beaucoup de projections, mais nous, sur Caen, on n'a pas été gâtés. Il y a eu une seule projection le 26 janvier dernier au cinéma Pathé. Greg, toi, tu as une explication. Parce que Monsieur Greg fait aussi du cinéma, figurez-vous.
Alors,
ouais.
Ah si, quand même.
Tous les jours, il fait du cinéma.
Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est ni plus ni moins le distributeur. Pour lancer la campagne de communication, la base réelle, ça va être sur les plateformes de streaming ou éventuellement le Blu-ray. Mais il n'y a pas eu vocation à le faire au cinéma, en salle. C'est vraiment pour le faire découvrir un peu en avant-première et en faire parler, justement, d'ailleurs.
Tu vois, c'est ce qu'on est en train de faire, voilà.
Ce qu'a fait Metallica dernièrement, ce qu'a fait Rammstein avec la sortie de leurs nouveaux albums.
D'accord.
Ils l'ont fait écouter en avant-première la veille dans les grandes salles de cinéma. Metallica l'a fait, Rammstein aussi. Mais le but n'était pas de continuer pendant trois mois.
C'est les plateformes, le but.
Oui, voilà. Directement, je pense que, alors je sais pas si
alors,
ce sera sur Prime ou Netflix.
À partir de juin, il est sur Prime, mais ça va être payant. Il va falloir payer en plus de Prime, tu vois. Bon, c'est un peu discutable, peut-être, non?
Ah bah après, oui, c'est peut-être discutable, mais le point de vue, en fin de compte, c'est pas cinématographique. Je pense qu'en plus, ça a pas trop mal fonctionné. Il y a eu 48 heures de projection sur le film de Led Zeppelin.
I got my first drum kit when I was 10.
I was listening to rock and roll coming from America.
Well, that's a sound I would really like to make.
John's wife used to say, don't you dare play with that planty. He's a complete disaster.
I'm going to form my own band, and I know what it is that I want to do with it.
Oh, Jimmy's forming a band. You should give him a call. So I did.
The first time we played together, you could tell it was going to be a good group.
It was an electric atmosphere, and that had been what I'd been waiting for. No
matter how I try. Jimmy produced the album.
I wanted it to be something that they hadn't heard before.
The press didn't seem to like us.
It got ripped to pieces. People wouldn't even book the band.
Our manager, Peter Grant, gets a tour together in America.
We're backstage at the Fillmore, and Peter says, if you don't crack it here,
It's over.
So we were going to go in there like with a hatchet. Everyone knew that was a life-changing experience.
We toured for months on end.
It was a whirlwind.
People are bashing down the doors to get in.
It's just absolutely ridiculous.
I was just out there throwing it up in the air.
We just recorded what we liked.
It really dovetailed together.
Called Led Zeppelin.
And I thought, that's a terrible name. But I couldn't come up with a better one, so Led Zeppelin we were.
Moi, je voudrais revenir. On est passé trop vite tout à l'heure sur l'aspect du blues.
Oui.
Ça s'appelle Blues Héritage. Bon, bon. Bonsoir, cette émission. Et on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que Daniel a raison, qui était derrière moi, qui me disait, ouais, mais. Et elle a raison parce qu'en fait, c'est vraiment construit sur des grilles de blues. Complètement, les Zeppelin. Donc après, oui, ils sont partis dans des sons un peu. Mais c'est toujours construit, on est d'accord, Patrick, sur du blues.
Oui.
Faut vraiment le redire.
Absolument.
Et ils ont, ont comme tête d'affiche, en tout cas repère et référence, des gens comme Howlin' Wolf et compagnie. Donc,
Willie Dixon,
Otis Rush.
Hein, Otis Rush, bon bah voilà, il y a même eu un moment, je crois, Sonny Bill Williamson, mais bon, toi.
Mais qu'est-ce qui fait, Patrick, qu'à un moment donné, on dise plus de Led Zeppelin, que c'est un groupe de rock, plus qu'un groupe de blues? Comment ça se fait qu'on se souvient plus du côté rock que du côté blues?
Bah, par le son, à mon avis.
Oui.
Par le son électrique, et puis par eux aussi, je pense, n'ont pas voulu rester purement et simplement blues et se retrouver dans un jug joint, mais ils ont insufflé le courant électrique qu'il y avait dans les années 70 et qui les a...
C'est ce qu'on appelle l'évolution musicale.
Exactement. Well, I can't quit you, babe. But I got to put you down for a while. Down for a while. Yes, you must know my happy home, baby. Made me mistreat my only child.
Oui, mais c'est pas toujours facile de prendre un virage comme ça au niveau du son. Et tu penses que c'est le son de la guitare de Jimmy Page qui fait la différence?
Ouais, enfin bon, Bonham, enfin moi je reste aussi, je trouve que Bonham quand même c'est son espèce de martèlement par derrière, ça pose quand même des bases.
La voix aussi, Robert Plant. Dans le blues, on n'a pas ce genre de voix hyper aiguë. En tout cas, pour le peu que j'en connais, parce que je suis un peu moins spécialiste que vous dans le blues. Mais pour moi, la voix est plus dans les aigus de ce qu'on appelle le rock ou le métal que du blues où on a une voix un peu plus haut.
Et puis dans les thèmes aussi, dans les thèmes qu'ils abordent.
Oui et non, mais c'est vrai qu'on a tendance à associer ce type de blues comme étant du blues rock, bien sûr, avec des gens qui ont vraiment du coffre et puis qui savent s'en servir, qui savent se servir d'un micro. Tu as aussi des chanteurs de blues qui sont dans des registres très aigus, je pense à Skip James, là, juste un exemple comme ça. Hot times in every where you go. Times are harder than ever been before. Et là, par contre, on n'est pas du tout sur le même registre. On est sur du blues acoustique, bien plus posé, etc. Et Robert Plant, lui, était capable aussi, dans certains titres, non pas de hurler comme un fou, mais également de moduler sa voix de façon...
Stairway to Heaven,
par exemple. Qui est en fait deux morceaux.
Rumble One, tout à fait. There's a lady who's sure all that glitters is gold and she's buying the
stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for.
Et ce qu'il continue à faire actuellement.
Aussi.
Alors, ce que continue à faire Robert Plant, effectivement. Alors, avec un petit mot moins d'aigu quand même. On l'a vu il n'y a pas longtemps sur une vidéo où il était en train de buffer à la Nouvelle-Orléans. C'était assez extraordinaire. C'était au Preservation Hall. Je ne sais pas si tu connais cet endroit, Patrick, d'ailleurs. Tu es tombé sur la vidéo à un moment donné, tu l'as vu ?
Je suis tombé sur la vidéo dernièrement.
Là où c'est terrible, c'est quand on voit, quand on entend Robert Plant jouer avec tous ces jazzmen. Moi, je trouve qu'ils lui ont vraiment rendu la monnaie de sa pièce. C'est-à-dire que pendant des années, là encore, c'est aussi un aspect du blues et de Led Zeppelin, c'est que pendant des années, ces garçons ont pillé une partie du répertoire des bluesmen. Ils ont refusé de les indemniser. Il y a eu des procès qui ont duré des années et des années. Patrick, tu connais toute cette histoire-là aussi. Et là, voir Robert Plant jouer et chanter avec les jazzmen de la Nouvelle Orléans et justement essayer de transformer le morceau qu'il était en train de chanter en espèce de hymne New Orleans, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Patrick, c'était
vrai.
Robert Plant, il a toujours une actualité bien sûr. Robert Plant, il est en train de préparer toute une tournée. Il y a 5 dates au mois de juillet en France, notamment.
Ouais, fait des festivals, c'est essentiellement.
Et puis aussi et surtout, on reparle. Alors Greg, je parle sous ton contrôle. J'ai lu quelque part, mais c'est sûrement une fake news, qu'il y aurait une énième reformation de Led Zeppelin avec Jason Bonham, le fils de John.
J'ai lu aussi.
Mais ça ne fait pas une vérité. Greg, tu n'y crois pas, toi ?
Non. Non, j'y crois pas du tout.
Non,
mais bon,
moi j'y crois pas parce que.
Peut-être, style un Hall of Fame, de se dire une soirée, deux chansons et pourquoi pas, mais j'y crois même pas du tout.
Une soirée, deux chansons et $3,000 l'entrée.
Oui,
mais avec l'intelligence artificielle, on peut recréer le groupe facilement.
Alors.
Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec les tributes là. On va pas s'emmerder avec des tributes, on va reprendre les mêmes et puis on va leur faire des têtes jeunes.
Comme ça,
voilà.
On va retirer l'individu et on va
s'arrêter de faire cette émission. Bonsoir.
Il a pas tort.
Patrick, t'as pas honte de t'associer à des gens pareils qui parlent d'intelligence
artificielle. Un petit moment de honte et si vite passe.
Ce qui est intéressant en tout cas, parce que tu l'avais mentionné tout à l'heure, Led Zeppelin est parti sur une accélération musicale qui a fait du rock au lieu du blues, et étonnamment en fin de carrière reviennent vers du blues, à ralentir le rythme musical. Et il y a
parce
beaucoup.
Qu'ils sont vieux qui ralentissent.
Oui, non mais il y en a beaucoup. Regarde AC/DC qui est exactement pareil. Alors, AC/DC pour moi c'est exactement pareil. C'est quand même du blues à la base. C'est du blues plus rock. Et maintenant je trouve que les derniers albums reviennent un peu à cette consonance un peu plus blues.
Alors le dernier album d'AC/DC pour moi c'est Back in Black numéro 2.
Ouais.
Franchement, hein, c'est exactement le même son.
Tout à fait,
La façon dont on avait découvert Brian Johnson en 1980, c'est exactement ça. Si tu reviens dans les années 73-74 au début du groupe, les solos d'Angus Young sur CSG, c'est du blues. Et puis Bon Scott était un chanteur de blues. Mais c'est pour aller dans ton
de
sens
blues,
que je dis ça.
Rock et revenir à blues.
Est-ce qu'on peut revenir à Led Zeppelin parce que là,
alors Led Zeppelin, on va quand même rappeler que Jimmy Page est l'un des plus grands guitaristes du monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Patrick?
Ah bah bien évidemment.
Non,
c'est un
non, on ne sera pas d'accord.
Mais bien sûr que si, mais je suis navré.
Mais n'importe non, mais quoi, Patrick, encore une fois, tu te fourvoies.
Je dis c'est un des. Parce qu'on ne va pas faire des classements comme ça.
Si, ça existe.
Le guitariste du tribut de Led Led Zepp, il est très bon aussi.
Il a raison, Patrick. Les classes mal, c'est pas beau. Tu as raison, Patrick. Je suis d'accord avec toi.
Ouais, faut pas. Enfin, voilà.
Alors, en quoi, alors, c'est intéressant, Patrick. En quoi, pourquoi tu classes dans cette catégorie-là par rapport à d'autres? Qu'est-ce qu'il a comme argumentation selon toi? Ou quelle est ton argumentation pour lui, en tout cas?
Pour dire qu'il est parmi les meilleurs guitaristes du monde. Oui.
Mais c'est le premier.
Bon, sa créativité, déjà. D'accord. Son inventivité, sa passion. Parce que c'est un mec aussi étrange que ça puisse paraître, à 80 ans, il continue, il vit et il respire pour la musique. Il n'entretient pas un
mythe,
marché,
un patrimoine, oui.
Voilà. Un patrimoine. Il continue, voilà. Et puis,
donc bah, c'est sa sincérité que tu mets en avant. Sa sincérité.
La sincérité, voilà.
Et la créativité. Héritage.
Marc Loison,
Jacques Perrotte. Chaque dernier samedi du mois dans Sweet Home Chicago
sur Radio 666
et sur Blues Actu Radio.
Oh yeah. Il aurait pu se laisser aller, vu que c'était quand même un des meilleurs musiciens de studio du monde dans les années 60, à avoir une carrière confortable où il aurait été sideman et puis il aurait gagné peut-être autant, si ce n'est plus d'argent qu'il en a gagné.
Il a joué avec Johnny, non ?
Il a joué, oh bah oui, il a joué avec Johnny.
Oui, ils ont fait un morceau ensemble, c'était en 1967 et ça s'appelait À tout casser ou un truc comme ça.
Ouais. Il a joué avec même d'autres Français, je crois, mais je ne veux pas...
Alors, Jimmy Page, il a été également, bien avant les Yardbirds, c'est-à-dire vers 63-64, il a été aussi guitariste d'un certain Mickey Finn, qui lui-même est devenu guitariste de Nino Ferrer par la suite.
Et
Mickey Finn m'en avait parlé de ça, il m'a dit, mais tu te rends compte, mon premier guitariste, parce que c'était même pas le gars avec qui il jouait, c'était mon premier guitariste, c'était Jimmy Page, quoi. Quand tu vois un type qui te raconte ça, c'est juste incroyable.
Ça passe.
Ça
après,
passe.
Quelque part, je dirais que c'est quand même les précurseurs de ce qu'on appelle les riffs. Pour moi, les Wool Lotta Love, Immigrant Song, tout ça, on se rappelle, c'est...
Alors, qu'est-ce qu'un riff? Vous avez 4 heures, maître.
Voilà, c'est ça.
En boucle. C'est pas l'ensemble aujourd'hui chez les rappeurs.
Ouais, mais c'est vrai que pour moi, c'est les premiers groupes. Ben voilà.
Wall Not a Love.
Si tu regardes bien, les gens ne chantent pas les paroles de cette chanson-là. Ils chantent toujours le riff.
C'est vrai.
Systématiquement.
Mais tu as raison. C'est une très très bonne remarque, Greg.
Excellent. Merci.
Voilà.
Et d'ailleurs, c'est quand même.
Un point. Reposez-vous.
Non, mais le pire, c'est qu'on s'en souvient plus par une pub avec Johnny Depp.
Peut-être aussi.
Non, mais la pub, parfois. Oui, c'est triste parce que quelque
c'est
part,
triste, oui.
Quand le morceau est associé à ce point, eh ben, on n'a plus envie de l'écouter.
Regarde,
pareil.
Immigrant Song. Tu te rappelles de ça?
J'ai même pas besoin de mettre le morceau, tu viens de le faire.
Mais voilà, non mais c'est ça.
T'as donc plus besoin de morceau.
C'est la force de Led Zeppelin. Cachemire, c'est pareil, à chaque fois, c'est pas Cachemire. Les chansons, c'est les riffs que tu chantes.
Ah, j'ai une question.
Tous les amateurs de foot connaissent Cachemire, parce que ça a été longtemps le générique de téléfoot sur téléphone.
C'est vrai.
Mmh.
Est-ce que tiens,
ah je... oui, tiens, je savais
qui...
même pas.
Quel chanteur français, là, je vous pose une colle.
Oui.
Quel chanteur français cite Cachemire de Led Zeppelin dans une de ses chansons?
Alors là.
Parce que ça, c'est pas mal. Hein. Fallait oser. Et c'est une chanson qui date des années 70 à peu près.
J'ai envie de dire Jacques Higelin, mais ça va pas.
Pas loin. C'est pas loin. Il a une belle carrière aussi, mais.
C'est pas dit qu'à l'égard.
Bon, je vous le donne.
Oui.
Yves Simon.
D'accord.
Elle écoutait Cachemire de Led Zeppelin.
Ah oui, c'est vrai.
Ben ouais, c'est bien de le dire, non?
Ouais, ouais, tout
parce que
fait.
Ça veut dire qu'aussi Yves Simon avait a toujours eu cette patte et cette acuité de reconnaître les talents. Voilà.
Ok. Revenons à Led Zeppelin.
Tu plombes tout le monde, c'est ça?
On parlait de Robert Plant, bien sûr, et de sa voix extraordinaire. On vient d'évoquer la guitare de Monsieur Jimmy Page. Tu as tout à l'heure, Patrick, parlé du martèlement incroyable de John Bonham. Mais il y a quand même un quatrième garçon dont on parle assez peu, qui s'appelle John Paul Jones, qui n'a pas seulement été bassiste, qui n'a pas seulement été pianiste, qui n'a pas seulement été compositeur, mais qui était un génie. Et ce film-là, Becoming Led Zeppelin, je regrette vraiment, les garçons, que vous ne l'ayez pas vu, parce qu'il réhabilite en quelque sorte John Paul Jones, qui était considéré comme le petit timide de la bande, tu vois, un petit peu le Ringo Starr de Led Zepp. Et non, John Paul Jones, c'était un génie, et quelque part, il a transcendé l'art de Robert et de Jimmy.
Ah bah Roger. Oui, non mais attends, non, j'avais juste un truc à dire, c'est que c'était aussi un arrangeur.
Oui,
un arrangeur,
bien sûr.
Hein, c'est lui qui avait
c'était
fait
son
des
premier
cordes,
métier.
Ouais, il avait fait des cordes sur We Love You, par exemple.
We Love You, des Stones. J'ai une question, les garçons, pour en guise de conclusion. C'est vrai qu'au cours de ce Blues Héritage spécial Led Zeppelin, on a écouté plusieurs extraits, et puis ça, c'est tant mieux, parce qu'il faut faire perdurer la musique de Led Zepp. Au-delà des tributes, parce qu'on en a déjà parlé, comment faire pour faire découvrir cette musique-là aux jeunes? Moi, je pose la question en premier à Greg, parce qu'il a une très bonne émission de hard rock et de métal le mardi soir sur Radio 666.
C'est gentil.
Ça t'arrive de passer du Led Zepp ou pas du tout?
Non, mais messieurs, on va arrêter.
Ah.
Hein, Led Zepp, c'est un groupe de rock.
Donc, tu passes pas de Led Zepp dans ton
émission. Je peux plus passer du Led Zepp que du
puriste grec, c'est pas possible.
Mais non, c'est vrai.
Cette émission s'appelle Blues Héritage.
Mais
et
je
on
ne dis
essaie
pas
d'ouvrir
contraire.
Les frontières, à toi tu les refermes.
Non, je plaisante.
J'ai pas parlé du
bien
sûr que tu plaisantais.
Bien sûr. Mais alors, son fils, tu vois, je regardais tout de suite. Je cherchais
Jason.
Pareil, hein, ça reste un super bon batteur. Il a joué avec Foreigner, Black Country Communication, qui est un très bon groupe. Je ne peux que vous le conseiller. Les enfants des membres de Led Zeppelin continuent, mais ont quand même une orientation assez rock pour le coup.
D'accord. Jo,
vous n'avez pas parlé du pro. Procès blues, justement.
Alors, le procès blues, qu'est-ce que tu as. Comment peux-tu nous instruire ça par rapport à Willie Dixon, c'est ça?
Ouais.
Moi, je ne connais pas trop les détails. Ce que je peux te dire, c'est que la famille de Willie Dixon, lui, est décédé en. Le procès a duré encore bien des années après. Et ensuite, je crois que c'est Robert Plant lui-même qui a finalement couché les pouces et puis offert un pactole pour dire. Bah, ça arrive souvent hein, quand on est en litige. C'est ça, Patrick, à peu près.
Je crois. Ah, oui, je pense que c'est un résumé assez fidèle. De
c'est ce très résumé.
Et ça vous gêne
ouais,
pas
bah
ça.
Oui, mais
ça vous gêne pas.
Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'effectivement, ils étaient tergiversés parce que à l'époque de leur gloire, dès 1969, ils ont amassé un pactole incroyable. Enfin, on va rappeler quand même que leur première tournée mondiale a fait pratiquement toutes les grandes villes des États-Unis pour un groupe anglais qui n'était pas connu en Angleterre. Ils sont devenus des superstars aux États-Unis. Ils ont ramené des tas de dollars dans leur avion et il n'y en avait pas un seul pour Willie Dixon. Ça, c'est dommage. Je suis d'accord.
Ils ont peut-être pris la grosse tête. Il faut dégonfler le ballon.
Oh, alors celle-là, on va l'encadrer, Jacques.
Oh.
Oh,
allez donc, t'as les épines en toi.
Je m'en vais sur ce qu'on m'embrasse.
J'ai la même question pour toi, Jacques, pour conclure à propos de Les Épines depuis 2025. Donc, on va être d'accord avec Greg comme quoi la reformation n'aura pas lieu. Ce serait complètement impossible, puisque en plus, Robert Plant l'a dit dans une interview il y a même pas six mois, comme quoi c'était pas du tout à l'ordre du jour. 2025 et Les Épines, c'est encore possible de vivre cette musique. Bien sûr, on peut continuer à écouter les albums, les vinyles ou les CD, mais comment faire découvrir ça aux jeunes et voilà, quel est le biais finalement?
D'abord, je vais faire une blague. Si Robert se plante, il faudra tourner la page.
Oh là là
Sinon, je pense qu'il faut faire écouter.
Tu t'es levé de bonne âme, toi, ce matin.
Il va falloir tourner la page.
Je pense sérieusement qu'il faut faire écouter Led Zeppelin. Mais alors, comment faire? Parce que est-ce que beaucoup de radios en passent? Pas beaucoup.
À part Radio 666.
Voilà. C'est mais vrai. Justement, à part si on met de la musique dans les pubs pour faire connaître.
Classique 21 en Belgique le passe beaucoup.
Ouais. Ben voilà, les Belges.
Il n'y a pas une heure sans un morceau de Led Zeppelin.
Les Belges sont restés très rock.
Les Belges ont la frite.
Oh, oh
non, alors ça,
elle est Joe, il est dans le paquet aussi, c'est parti.
Le monteur passera par là pour couper. C'est dommage parce qu'il y a, comme disait Greg, c'est comme un groupe qui a été précurseur, qui a donné envie à d'autres gens de faire cette musique-là et d'aller encore plus loin dans le hard rock. Et c'est dommage de ne pas le faire écouter. Il y a beaucoup de groupes comme ça, les Who pareil.
Alors ouais, les Who aussi. Les Who, un groupe de la même génération. Moi j'ai encore une question pour vous messieurs, et elle va être d'abord pour Patrick si tu veux bien. Quels sont les groupes, quels sont les artistes de maintenant qui vivent dans l'héritage de Led Zepp? Et là on ne parle pas des cover bands, on parle de ceux qui intègrent cette musique-là dans leur propre répertoire. Est-ce que tu en connais?
Alors pas de... qui intègre? Non, je ne connais pas. Je connais des à la manière d'eux. On peut dire que le Rival Sons par exemple.
Ah, Rival Sons.
Rival Sons, hein, que j'aime beaucoup.
Ça, oui. C'est intéressant.
Ouais. Pas. Bah, très bon pour Rival Sons.
Absolument. C'est...
Voilà. Oh, Jacques, c'est tu en as un?
Non, pas du tout.
Non, Greg? Non. Pas Rival Sons.
Whitesnake. Whitesnake, d'ailleurs, qui a David
Cover. Tu parles de Whitesnake de maintenant ou
Ah, mais même maintenant, ils continuent quand même à faire des albums. D'accord. Et leur influence Led Zeppelin est toujours là. D'ailleurs, je peux que vous conseiller l'album de David Coverdale et Jimmy Page, qui était excellent. De fait, c'est un vieux groupe, mais Coverdale continue à chanter et il y a toujours ces intonations.
On rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que David Coverdale était un des chanteurs de Deep Purple.
Deep Purple.
Non, mais c'est important parce que on parle comme des vieux là qui connaît ça aussi.
On est des vieux.
Mais ça, c'est un problème. C'est un problème que je trouve en général, c'est que nous, on connaît des choses et on veut intégrer des jeunes et on leur dit pas les choses.
Oui, mais au bout d'un moment, les clés, il faut les donner et puis ils ont qu'à ouvrir des bouquins quelque part, écouter les disques. Mais il faut leur donner envie. C'est ça la question. Comment donner envie d'aller plus loin. Patrick.
Je pense que s'il y avait un ou deux rappeurs qui samplent du Led Zeppelin, peut-être que ça les intéresse,
Il y a eu pour le bande son de Godzilla, c'était Cachemire. Il y a eu quelques-uns, mais je suis d'accord avec toi Patrick là-dessus. Maintenant, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, l'aspect publicitaire ou d'émissions télévisuelles qui utilisent encore. Ouais.
Ouais.
Ça c'était avec Puff Daddy. Exactement, c'était pour le film Godzilla. De Roland Emmerich.
Eh ben, on écoutera un extrait de ça parce que c'est très intéressant. Greg.
Mais en soi, on a des émissions comme 50 Minutes Inside sur la Une qui reprend Immigrant Song. On a Who Lotta Love aussi qui passe assez régulièrement. Donc on a tous ces petits morceaux qui font que même mes enfants m'ont des fois demandé en me disant mais c'est quoi le morceau de rock? Tu vois, ils ne connaissent pas, mais au moins ça les incite à se dire tiens, j'ai envie de. Et après ils Shazam et puis hop, ils tombent.
Ça c'est intéressant. Il y a deux autres entrées aussi. Bah, effectivement, tu parles de la télé. Il y a les pubs télé qui reprennent. Et puis aussi, il y a un dessin animé qui existe depuis 30 ans qui s'appelle Les Simpsons.
Ah,
ça,
oui.
C'est une référence pour tous ceux qui sont nés après 90, je peux te jurer qu'ils adorent ça. Et il y a des morceaux de Led Zeppelin, parce qu'il y a de tout.
Ouais.
On parle même de la mort de Trump dans un épisode des Simpsons. Mais ça n'a jamais été aussi prémonitoire. Il n'a jamais été aussi près de la mort, ce mec-là.
Mais les Simpsons, c'est un truc de vieux déjà, ça. Ouais.
Mais ça existe toujours. Il y a toujours des nouvelles saisons.
Voilà.
Ouais, mais tu vois.
Toujours plus. Monsieur Plus.
L'aspect télévisuel est impactant parce que moi, j'ai connu beaucoup de groupes de hard rock, alors notamment Joe Satriani, c'était par le Paris-Dakar à l'époque. L'émission du Paris-Dakar, quand elle était diffusée, à chaque fois, mais le mec, il était, à mon avis, accro à tout ce qui était rock. Et j'ai connu Joe Satriani comme ça, j'ai connu Megadeth comme ça, et Led Zeppelin, ou Lotta Love, tu vois. Donc, bon, quelque part, il y a les messages qui font que, bah, on arrive à continuer au-delà des tributes, Patrick.
J'ai une toute dernière question pour chacun d'entre vous. Joe, tu vas répondre en premier. Quand et comment as-tu découvert Led Zeppelin?
Alors là, j'en sais rien.
Alors moi, c'était mon cousin qui écoutait ça. Il avait 6 ans de plus que moi, il adorait ça. Voilà.
Même question pour Greg.
Je pense sincèrement que ça devait être sur le Paris-Dakar. Ouais. Les émissions à l'époque de Gérard Hall sur FR3, c'était...
Vive le sport, sur la 2, vive le sport, sur la 3.
Il y avait les bagnoles, machin et tout, et d'un seul coup, paf, tu entendais un morceau de musique, c'était Satriani et Will Lotta Love, sûr et certain de Led Zepp.
Non, c'est sur c'est aussi une cousinade, mais c'est Houses of the Holy, qui reste un album pour moi extraordinaire, qui est un peu à part dans la discographie de Led Zeppelin, et je crois que c'est quand même mon préféré, parce qu'on y retrouve l'esprit blues, mais pas seulement, on y va sur des sonorités étranges dans les sons de
No Quarter, par exemple.
No Quarter, hein, c'est extraordinaire.
C'est un truc extraordinaire.
Si vous voulez planer, allez-y. Hein.
Et Patrick, pour terminer, même question, quand et comment as-tu découvert Led Zeppelin?
Par un copain qui, dans les années 60, enfin, en 1970, si je crois bien me rappeler, était en train de jouer à nous les petites anglaises en faisant un séjour linguistique, et qui était revenu avec le Led Zeppelin et puis le Black Thalas paranoïde sous le bras, et on a passé des journées entières à tourner et retourner le disque. Ça a été une révélation, presque dans le sens mystique du terme.
Mystique, carrément.
En tout cas,
il y a quelque chose qui fera l'unanimité. C'est les Anglais qui ont fait quand même les meilleurs groupes de toute cette époque. Black Sabbath, Rolling Stones, les Beatles, Led Zeppelin. On est d'accord.
Ah, nous, on avait quand même Téléphone et Trust, même.
Et Bijoux.
Non, mais souvent, les Américains ont réussi à récupérer comme si c'était des groupes à eux parce qu'ils se sont exportés. Moi, dans le hard rock, par exemple, Def Leppard ou Saxon, beaucoup. Alors, Saxon, pour le coup, ce serait difficile de dire que c'est américain, mais Def Leppard, beaucoup ont cru que c'était des Américains. Alors,
Scorpion.
Scorpion, c'est Hanover, c'est allemand. Mais en soi, voilà, c'est que les Anglais sont quand même très, 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 très bons dans le rock. Il n'y a pas à chier. Hein.
N'oublions pas, messieurs, qu'il y a quand même une Screaming London un peu avant et que là, tout est parti de là. Hein.
Oui,
voilà. Mais ça sera l'objet d'une autre émission à laquelle on te conviera peut-être si tu nous payes l'apéro.
Les Anglais n'auraient pas existé si les Noirs n'avaient pas, au départ, inventé le blues.
Voilà, on y revient toujours.
On est entièrement d'accord.
Oui, tout à fait.
Messieurs, merci. Avec quel morceau voulez-vous qu'on se sépare? On va écouter un morceau entier de Led Zeppelin. On a écouté que des extraits depuis le début. On se met d'accord? Smoke on the Water. Bonne réponse de l'amiral.
Et au bout d'une heure, le mec. Au bout d'une heure. Au bout d'une heure, l'inculte. Smoke in the Water. Il n'y a pas mieux chez Led Zeppelin.
Oui, bien sûr. Bon, Patrick avait choisi I Can't Quit You Baby. Joe avait préféré Rock and Roll, tout comme Greg. Jacques, c'était No Quarter. Et puis moi, j'avais préféré Stairway to Heaven. Voilà. Et puis il y avait également Jean-Christophe qui était dans le studio il y a une demi-heure et qui m'avait dit Babe, I'm gonna leave
you. Oh, j'adore.
Ça, c'est beau. Hein.
Ah, c'est sûr. Oui, mais il n'est pas là, donc on va prendre autre chose.
On va faire ça quand même.
C'est petit.
Salut, messieurs, à bientôt.
Merci.
Salut, Marc.
Salut.
Ciao. À bientôt, Marc.
À bientôt, Patrick. Merci.
Ciao, Patrick.
À bientôt.
baby, baby, I've been really got to ramble. I can hear it calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home.
C'était le 8e Blues Héritage avec Jacques Perrotte, Joe Caritos, Greg Bellery, Patrick Paillard. On parlait de Led Zeppelin. On a écouté abondamment Led Zeppelin avec Wall Lotta Love, Rock and Roll, I Can't Quit You Baby, Communication Breakdown, la reprise de Rock and Roll par The Iron Cross, qui n'est pas un groupe américain mais un groupe roumain. Led Zeppelin encore avec le teaser Becoming Led Zeppelin, Otis Rush, I Can't Quit You Baby, nous étions en 1956. Led Zeppelin encore pour Moby Dick, un solo de batterie de John Bonham en 1973. Skip James pour la voix aiguë des bluesmen avec Hard Times Killing Floor, nous étions en 1931. Led Zeppelin pour Stairway to Heaven, Robert Plant avec Black Dog, vous savez cet extrait au Live Preservation Hall en 2025, AC/DC avec The Jack en 79, Jimmy Page pour un solo dans Heartbreaker en 75 live at Earls Court, en 1900 non pas 67 mais 68, à tout casser Johnny Hallyday avec Jimmy Page, Led Zeppelin pour Wall Lotta Love, Immigrant Song, Cashmere, ensuite on parlait de Cashmere, on parlait justement de Led Zeppelin dans la chanson Zelda, nous étions en 1977 dans le répertoire de Yves Simon, et puis John Paul Jones, un petit solo de clavier comme ça capté au Royal Albert Hall en 1977, les Rolling Stones avec Marianne Faithfull au cœur pour We Love You, et ensuite Led Zeppelin à nouveau pour No Quarter, Rival Sons avec Electric Man, David Coverdale et Jimmy Page pour Take Me For A Little While, et en ce moment Babe I'm Gonna Leave You sur le tout premier album de Led Zeppelin en 1969. When it's calling me, that's when it's calling me back home. Blues Héritage.
Marc Loison.
Jacques Perrotte. Chaque dernier samedi du mois dans Sweet Home Chicago.
Sur Radio 666.
Et sur Blues Actu Radio.
Oh yeah.
On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième heure de ce Sweet Home Chicago numéro 1281 avec la deuxième partie d'interview de Manu Galvin. A tout de suite.
Come on!